France Inter.
La bande originale avec Leïla Kadrboudali, Daniel
Morin. Coucou.
Et pour finir en beauté cette semaine, Leïla, qu'allons-nous faire aujourd'hui ?
Eh bien, on reçoit le professeur que l'on aurait rêvé d'avoir, un des romanciers préférés des enfants comme des parents. Dans Mon Assassin, il nous fait découvrir les héros de ses livres. En vrai, je parle évidemment de Daniel Pennac.
Ah, les Daniel ! Toujours un gage de qualité.
Oh, tu parles.
Allez, tu...
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Ça faisait longtemps. Non, c'est vrai. Vous avez manqué. Bah, visiblement, c'est pas inverse.
Non, c'est sûr, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, hein, pendant les vacances, pour L'œil du loup et la bande dessinée.
C'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais là, c'est Mon Assassin, le roman chez Gallimard, que vous venez de publier. La première question que nous posons dans cette émission, c'est le mot du jour ou la citation du jour, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, Daniel.
Le
aujourd'hui, là,
vaseux.
Vous êtes vaseux. Très bien. Je pense que pas mal de gens vont vous le piquer, celui-là. Lisa.
Je vais pas dire vaseuse, du coup. Je suis d'humeur amicale.
Ah, c'est gentil, ouais, c'est gentil. Camille.
Ah oui, ça change. Moi, je suis.
Moi, je suis une bonne copine.
Je suis ouverte à l'amitié de Lisa, si elle veut bien.
Non, mais t'as un t-shirt avec un message, toi.
Oui, I can buy myself a flower.
Mais c'est le titre de la chanson.
Exactement.
Il te les achètera.
On
ne veut rien se cacher.
On fait des blind tests sur les sweatshirts maintenant, wow, la folie. Emma.
Moi, je me sens plutôt bien. La vie est douce, franchement.
La vie est douce.
La vie est plutôt douce.
Ça fait longtemps que t'es pas sortie.
Hein. Ah ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis pas venue, c'est pour ça.
Moi, je me sens pépère.
Ah, oui. C'est vrai que t'as pris un coup. Hein.
Je me sens pépère. Voilà. Et c'est une vanne sur l'un des personnages du nouveau roman. Non, mais c'est vrai parce que.
Donc, dangereux.
Potentiellement.
Ça va, ça.
Non, mais potentiellement. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant dans votre roman, c'est que vous préparez comme une espèce de bande-annonce du coffret Malocène qui sortira au mois de novembre, c'est-à-dire que vous expliquez la genèse de l'arrivée de tous ces personnages quand vous avez des amis dont vous ne voulez pas vous séparer ou que la vie finalement crée cette triste séparation. À ce moment-là, vous faites tout pour les garder. Ils deviennent des personnages de roman.
Oui, c'est vrai, oui. Tous mes amis, parce que ça fait maintenant, mine de rien, ça fait une petite cinquantaine d'années que ça dure.
M'en parlez pas.
Donc, beaucoup d'entre nous meurent. Mais c'est un vrai coup de peau, j'aurais pu... Et il me reste, tous mes morts me restent.
Et vous le dites
sont
en plus,
avec moi.
Vous dites c'est égoïste en plus parce que vous les gardez pour vous, pour qu'ils vous tiennent compagnie.
Oui, oui.
C'est pas tant pour les célébrer.
Et ils étaient déjà des personnages de mes romans de leur vivant. En fait, on s'aperçoit que les Malocènes, c'est un énorme bouquin d'autofiction où tous les personnages sont des amis.
Ouais, c'est comme une photo de classe, finalement.
Oui, proche.
On retrouve les proches. Alors, plus ou moins détournés.
De l'auteur,
oui. C'est ça qui est fort aussi, c'est que vous expliquez le trait de caractère que vous avez emprunté, la signature littéraire que vous avez emprunté à vos amis, pour devenir l'une
des personnages. Oui, c'est ça, c'est souvent, on prend un trait de caractère, ou peut-être même un détail dans une journée.
Ou une expression.
Une expression, et paf, ça s'incarne en un personnage, quoi.
Votre roman est construit d'une manière particulière, comme une forme d'écriture automatique, et vous vous laissez aller. Alors le prétexte de dire le personnage va vivre tout seul et l'auteur n'y est pour rien, c'est le personnage, je suis mon personnage. Avouez que ça c'est un peu facile.
Non, c'est cette histoire de pépère justement, du méchant.
Oui.
Quand vous avez pris le pli de faire vos personnages avec des gens qui me sont proches, dont je ne pourrais pas me séparer, qui deviennent, ils continuent de m'accompagner en littérature. Mmh. Et tout d'un coup arrive un atroce, un vrai dégueulasse, un méchant, un assassin total, qui prend plaisir.
Oui, qui tranquille, assassin tranquille. Ouais, c'est
très peinard, très tranquille, qui prend un immense plaisir à massacrer son monde. Et tu te dis, la question que l'auteur se pose, mais d'où il vient celui-là? C'est pas Daniel, c'est pas...
vous allez pas loin.
D'où vient-il? Et dans ce roman, Mon Assassin, c'est ce que je cherche. L'origine de ce qui m'a fait imaginer cet assassin effroyable.
Et ça commence par un enfant qui a une espèce de pancarte autour du cou, un peu comme les enfants qui voyagent en UM dans les avions, qui ont autour du cou une fiche.
Il y avait ça dans mon enfance.
Ça existe toujours.
On voyait un gosse d'une dizaine d'années avec... c'était enfant machin, enfant Nagui, lieu de départ Chalon-sur-Marne, lieu d'arrivée, gare de l'Est de Paris, et le nom des parents. Et là, je me rappelle très bien cette formule. La SNCF, dans son règlement, avait écrit « L'enfant sera réceptionné à sa place ».
Un colis, quoi.
Une marchandise. Ouais, c'est clair. Un colis. Et le roman commence comme ça, par un pauvre petit enfant, abandonné dans un train.
Ouais, pauvre petit, mais on sent déjà aux premières remarques qu'il va pouvoir faire sur...
Très autoritaire.
Ouais, exactement, sur le pied, sur la banquette. Il a du caractère. Et il sait exactement ce qu'il veut, cet enfant. Et puis, ça va être une sorte d'aller-retour permanent entre son histoire, l'évolution, un véritable thriller. Ça aurait pu être un roman à lui seul, mais vous aérez en tout cas ces allers-retours, des clins d'œil à tous ces amis, à tous ces personnages de votre saga.
Mais oui, à tous les gens que j'ai connus en faisant la saga Malocène, à commencer par les éditeurs qui m'ont accueilli à la série Noire à l'époque, qui sont devenus des personnages malocéniens.
Robert et Christian.
Robert et Christian.
Très drôle. Christian est très drôle.
Christian, parce qu'ils avaient accepté le livre, mais ma mère s'était cassée la cheville. Et il fallait que j'aille m'occuper de ma mère dans le sud. Donc j'arrive 3 semaines après, je frappe à la porte et j'entends « Entrez ». Alors j'entre et je vois un mec installé derrière un bureau énorme avec une tête rouge, un bandana. Il dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « Ben c'est Pénac, je suis Pénac, vous savez le bonheur des ogres. Ah, c'est vous ?» Vous pourriez, mais c'est vrai, vous le publiez comme ça, il n'y a pas il n'y a rien à corriger. Mais mon pauvre garçon, c'est dans un tel état, autant le publier comme il est.
Et vous n'êtes pas comme Jeanne Moreau, alors.
On continue de parler avec Denis Pénac jusqu'à 12h30, mais on a un fan qui est avec nous, c'est Hall de l'art.
Oui, je suis fan de Daniel Pénac. Je suis fan depuis que j'ai eu mon bac. On pense direct à lui dès que l'on parle d'auteur. Et on pense direct à moi dès qu'on parle de largeur. Je suis fan de Daniel Pénac. Et j'ai appris que vous faisiez du tir à l'arc. Vous êtes le Robin des Bois de la littérature. Et Houellebecq, le Robin qui boit des littératures. Et vous êtes là pour votre livre, Mon Assassin. J'ai réappris à lire exprès tellement c'est bien. Je me suis permis d'écrire la suite, c'est encore mieux. Ça sort en novembre, ça s'appelle Mon Assassin 2.
Merci à tous.
Je suis fan de Pénac et Malocène. Votre héros qui a un peu mal au ventre sur scène. Je suis Malocène et mal en ville. Peut-être un intestin fragile. Allô maman, popo. Maman, comment tu fais? Car moi pas trop. Allô maman, poto, popo. C'est encore trop tôt. Je suis fan de Daniel Pennacchioni. Ça veut dire panache en Italie. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Hold the love. Daniel Pénac, donc, avec Mon Assassin. Pourquoi ce mon?
Parce que c'est le mien.
Laissez-le moi.
La question, c'est...
D'où il vient? Matteo Falcone, déjà.
Voilà. Vous connaissez l'histoire de Matteo Falcone?
Oui, mais racontez-la. Enfin,
cet assassin, oui, je me suis dit, comment est-ce que j'ai pu concevoir un pareil salopard? Et je me suis dit, au fond, à partir de mes moments de rage, quels sont mes moments de rage les plus enragés dans ma vie? Ça m'a rappelé une lecture d'enfance. Un adulte, pour des raisons d'édification morale, me dit « Tiens, lis ça !» Et ça, mes enfants...
Oui. Dit-il en regardant Lisa, Camille. Emma.
Emma, quand même.
C'est Matteo Falcone de Mérimée. Bon, je vous fais le pitch, comme on dit aujourd'hui. Allez. Matteo Falcone, berger corse, part un matin avec sa femme chercher ses troupeaux. Son petit garçon, Fortunato, qui veut dire le chanceux, veut les accompagner. le père lui dit, non, toi tu gardes la bergerie. Donc alors le pauvre gosse, il a 10 ans, il reste tout seul, il garde la bergerie, il commence à s'ennuyer évidemment. Lorsqu'arrive un bandit blessé avec une balle dans la cuisse, et qui lui demande de le cacher parce que les gendarmes le suivent et vont bientôt arriver. Alors le petit le cache dans une meule de foin contre une pièce de 5 francs. Les gendarmes arrivent, l'adjudant de gendarmerie lui dit « Tu n'as pas vu passer le bandit ?» Le gosse dit « Non. Tu es sûr ?»« Non. Tu aurais envie de cette montre, et il lui sort une montre magnifique. Et le gosse craque, livre le bandit contre cette montre magnifique. Sur ces entrefaites, Matteo Falconi, le père, revient, apprend ce que le petit a fait, l'emmène dans le maquis, lui fait dire ses prières et le tue. Et Nagui se marre.
Oui. moi, j'ai lu, c'est dans le livre. Donc
on lit ça à l'école, surtout. Voilà.
Non, mais il y a une mort.
Et il le tue. Et moi, 12 ans, 10 ans, je sais pas combien j'avais, 10 ans. Je me dis, attends, il y a des abrutis qui me donnent à lire ça pour mon édification morale. Qu'est-ce que ça raconte? L'histoire d'un gosse acheté par un adulte pour 5 balles, acheté plus cher par l'adulte suivant pour une montre en or, et assassiné par un troisième adulte.
Oui, mais qui a des principes.
L'honneur.
C'est ce que vous dites. Ben voilà.
L'honneur. Faut pas trahir Nagui, apparemment.
Vous voyez
l'honneur, la famille, etc.
Arrêtez, c'est pas moi l'auteur, c'est lui.
C'est le danger de la lecture, ça crée des serial killers littéraires.
Et là, je me souviens d'une colère, une fureur, un désir de vengeance.
Ils ont créé un monstre.
Parce que je me disais, quelle bande de salauds. D'abord, un, ils ne pensent qu'au fric. Deux, ils prétendent avoir de l'honneur quand ils sont simplement vexés. Vexés, ils sont capables de tout, de tuer un gosse dans le maquis, un gosse de 10 ans, et de faire lire Matteo Falcone et un autre pauvre gosse de 10 ans.
Vous.
Et j'étais fou de rage, je me souviens, ouais, c'est vrai.
Vous racontez ça dans Mon Assassin, ce nouveau roman chez Gallimard, avec cette intrigue menée, une véritable enquête. Cet enfant, il est machiavélique, il a plus que son âge dans ses raisonnements et dans sa manipulation des adultes.
Il est machiavélique, mais si vous lisez attentivement, cher Nagui, je vais vous lire avec vous. Vous reconnaissez une deuxième lecture avec commentaire écrit.
Parce que qu'est-ce que j'ai mal lu alors?
Non, mais c'est qu'il ne fait jamais que ce qu'on lui demande.
Non, il obéit.
Il obéit à l'univers adulte.
Ok, alors relisez votre livre, pardon. Il joue avec les mots des adultes, mais son intention est déjà dessinée. Il a presque l'ours de tout ce qu'il va faire, de tout ce qu'il va dérouler. Il fait les choses dans l'ordre, avec malice, avec pragmatisme et intelligence. Hein, je suis pas d'accord.
Je maintiens qu'il obéit.
Ok, bah relisez votre livre. Mon assassin chez Gallimard. Cécile Daniel Penac, qui va bientôt lire son livre, et c'est ça qui est formidable. En attendant, voici Lisa Delmoitier. Alors Lisa, vous n'auriez pas fait un livre comme ça?
Non, Daniel Penac, vous révélez un de nos secrets d'auteur en admettant que vos amis deviennent personnages dans vos romans. Ok, moi pareil. Mais insistons sur le mot ami. Parce que le nombre de mecs, ça fait même pas 15 minutes qu'on parle, qui me disaient hey, tu mets pas ce que je te raconte dans une de tes chroniques. Hein. Non, Fabien, aucun risque. On n'est pas amis, tu es comptable. Le week-end, pour te détendre, tu vas en foire médiévale. Je suis désolée, je suis dans le jugement, mais je comprends pas la nostalgie du Moyen-Âge. Les gens avaient la peste. Oula.
Aussi.
Ou la coupe au bol. Donc, Fabien, je vais pas écrire sur toi et ton anecdote. Tu sais, la fois où avec ta copine, pour mettre du piment au lit, tu lui as mis un masque sur les yeux. Waouh. Je crois que ça vaut une chronique de Lisa Delmoitier. Moi, je mets un masque sur mes yeux pour dormir. Fabien, ton plus gros fantasme, c'est ma routine sieste. Et bien sûr qu'il y a des amis à moi qui se retrouvent dans mes histoires. Après, c'est gênant aussi quand tes amis pensent se reconnaître dans ce que t'écris. Et Lisa, avoue, le brin ténébreux d'un mètre 90 qui fait tomber toutes les filles, c'est moi. Mais bien sûr, Olaf. Comment tu assures? Et comme vous, Daniel, je trouve ça très réjouissant de figer mes amitiés pour l'éternité dans le papier. Mais Daniel, que faites-vous des amis avec qui vous vous embrouillez? Hein, imagine, t'as un coco dans ta bande d'amis, tu le fais chevalier dans ton roman, puis 3 mois après la publication, il est toujours ta femme.
Ouais.
Je suis sûre que c'est pour ça que quand le héros meurt tôt dans le film ou les séries, il y a eu embrouille. À tous les coups, Mufasa avait chouré la meuf à Walt Disney. Geneviève Disney. Walt s'est vengé. Hein. Ah ça, tu culbutes ma jeune. Eh ben, bim, minute 18, une falaise et c'est ciao le Mufasa. Ça dégage, voilà. Je me demande aussi, Daniel, s'il y a des histoires de vos amis que vous interdisez de raconter. Mm. Parfois, quand Cominec nous explique ses soirées, je sais pas ce qui me retient de les raconter en chronique. Enfin, la décence peut-être et la protection des témoins. Mais c'est une question à se poser en tant qu'auteur. Hein. Qu'est-ce que je livre des autres et qu'est-ce que je livre de moi? Mmh. La semaine passée, après l'émission, la réalisatrice d'Emmanuel, Audrey Diwan, m'a demandé si ce que je disais dans ma chronique où je me comparais à son héroïne était vrai. Et j'ai dit oui. Et elle m'a dit « Mélisa, il faut pas tout dire. » Et je crois qu'elle a raison parce que les auditeurs commencent à relier les points et faire un portrait robot de moi qui est pas folichon, quoi. Vous le dites, Daniel, vous avez dans vos romans aussi des thèmes récurrents, comme par exemple les enfants complets. Vous appelez ça les enfants complets. Mm. Ne pas confondre avec les enfants blancs qui se digèrent trop rapidement. Pic de glucose dans le sang. Les enfants sont comme le pain, hein. Pour un apport stable en énergie, privilégiez le complet. C'est un conseil de mon ami mangeur d'enfants absolument pas inspiré d'un vrai ami dont le prénom commencerait par Da et terminerait par Niel. Non, on a tous un thème récurrent. Moi, j'ai reçu comme message d'une auditrice sur Instagram, véridique. Elle m'a dit « Bonjour Lisa, je suis médecin. En écoutant tes chroniques, j'ai décelé des symptômes. Fatigue, ralentissement psychomoteur, constipation et prise de poids. Je te conseille de tester ta thyroïde. » Putain, mais comme une qui reçoit des photos de nichons de vieille daronne, moi je reçois des diagnostics. Quoi.
Mais
ça
non,
j'ai reçu ça, ouais. Donc voilà, merci à cette médecin de s'inquiéter pour moi, mais c'est pas un ralentissement moteur, hein, c'est ma personnalité, quoi. Mais merci quand même de s'inquiéter. Et voilà, vous voyez, vous en sortez bien finalement, Daniel, hein, je vous prends pour un bouffeur d'enfants complet, mais moi, on me prend pour une obèse constipée qui a du mal à parler.
Est-ce que Daniel, vous avez déjà croisé des personnes qui vous demandaient de devenir l'un de vos personnages?
Non. Non, mais d'ailleurs, ce sont pas des personnes en réalité qui deviennent des personnages.
C'est des caractères.
Sont des caractères, des particularités. C'est-à-dire que la plupart de mes amis sont romanesques. Parce que les autres m'emmerdent. J'aime les gens romanesques.
Oui, c'est donc votre vision.
Et donc, oui. C'est... Ouais. Et Christian Mounier, par exemple, était d'un romanesque inouï. Et c'est... Il travaillait à la Série Noire, et le soir, quand la secrétaire s'en allait, il lui laissait toujours un petit mot. Tous les jours, un petit mot. Alors, le petit mot, c'était... Si les enfants naissaient adultes, il y en aurait vraisemblablement un peu moins. Il laissait ça. On ne devrait pas vivre tous les jours.
Ce sont des pensées.
C'était des petites pensées. Ouais. Lever le coude, c'est la meilleure façon de baisser les bras. Alors je disais, mais Christian, tu devrais faire un recueil avec ces à peu près. Mais non, moi, il parlait comme ça. Moi, j'écris comme on se noie, c'est-à-dire très rarement.
C'est lui. Vous avez fait un recueil, en tout cas vous avez récupéré ces
pensées. Il y a des droits d'auteur.
Oui, c'est ça. Et c'est lui qui avait reçu la télévision suisse pour parler.
Oui. Un jour, la télé, on était chez Gallimard et la télé suisse me dit on aimerait interviewer quelqu'un qui vous aime bien, un ami véritable. J'ai dit descendez à la cave, allez voir Christian Mounier. Nous sommes très amis.
C'est drôle,
et or, Christian haïssait la télé. Mais il la haïssait d'une haine militante.
La réponse est géniale.
Et alors, des mecs débarquent à la Série Noire. Et 2 minutes après, ils remontent. Mais comme s'ils avaient le capitaine Haddock en crise éthylique. Et le journaliste suisse passe devant moi et me dit « Vous êtes sûr que c'est un ami ?»
Tout ce que raconte Daniel est dans le livre Mon Assassin chez Gallimard.
La chute, ouais. C'est sur la phrase. Alors,
et on déjeune avec Christian un quart d'heure après. Il me dit qu'est-ce que tu veux, c'est la télévision, c'est déjà lent. Mais alors la télévision suisse. Ils m'ont mis une bonnette sous le nez. Le ridicule de ces bonnettes. Et il me demande qu'est-ce que vous pensez de Daniel Pénac. Je dis je suis allé au plus pressé. Je dis Pénac, mais c'est un vrai con.
Dans ce roman, il y a l'histoire de cet enfant qui, et dès le début, vous le dites d'ailleurs, est recueilli à la gare par de faux parents. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faux parents qui viennent chercher.
Mais des faux caparans que tout le monde peut reconnaître, puisque c'est les amoureux. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux amoureux de l'hôtel de ville de Robert Doisneau. Il les a castés pour un travail bien précis, dont je ne révélerai rien, même sous la torture.
Ah, zut.
Et on découvre à la fin la raison pour laquelle ce petit garçon a acheté, casté et acheté ces deux comédiens qui jouent le rôle de ses parents.
Ouais, qui vont même aller jusqu'à l'école pour le faire inscrire à l'école.
Oui, l'inscrire dans un lycée prestigieux, oui.
Ah, oui. Donc il fait uniquement ce que les parents lui demandent de faire, évidemment. Il est absolument pas manipulateur. Merci Daniel Pénac, Mon assassin chez Gallimard, le nouveau roman. Dans l'exercice de faire ces allers-retours entre la galerie de portraits, la galerie de caractères que vous faites et la construction de cet assassin, vous auriez pu aussi faire uniquement le roman sur ce petit enfant.
Oui, l'histoire du gosse qui c'est l'histoire d'un premier coup.
Voilà.
Bon, voilà un garçon qui a 14 ans, qui en paraît 10 parce qu'il est tout petit, etc. Et qui fait son premier coup et qui est un coup terrible.
Au sein de l'école.
Oui. Vous savez, les sujets sont des sujets, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la vie. C'est comment, comment s'arrange la fiction avec la vie, la vraie.
La vie, vous en parlez de la vraie vie, vous parlez même de votre santé. En expliquant, il fallait pas l'écrire.
Hein. C'est parce que le suspense est là.
Mais pourquoi avoir été aussi transparent et sincère ?
Mais parce que c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Si tu écris un bouquin et qu'en même temps tu as un emmerdement majeur qui pourrait bien faire que tu n'arrives pas jusqu'à la fin du livre que tu écris, ça fait partie de la dynamique même du livre. C'est curieux, hein, c'est vrai. C'est...
Vous dites même que vous êtes posé la question de savoir si vous alliez réécrire un jour, si vous alliez reprendre la plume, si vous alliez repartir dans la saga. Vous, toutes les questions qu'un auteur, on parle de la page blanche, mais ça va plus loin. Là, c'est plus l'ordonnance médicale qui vous faisait poser des questions.
À partir du moment où on s'imagine comme foutu, on ne pense pas. Le premier réflexe n'est pas penser à la fin du livre, et pourtant si.
Puis même dans La Maladie, c'est romanesque. Il y a un rebondissement.
Et La Maladie est en soi romanesque. On est jeté dans un imprévu total. Et si vous décidez de prendre cet imprévu du point de vue de l'observateur, pas seulement du point de vue du patient, c'est assez marrant de voir comment les maladies évoluent.
Ouais.
Enfin, pour l'intéresser, qui sait se transformer en spectateur, oui.
Mon assassin, c'est passionnant, c'est évidemment extrêmement agréable à lire, signé Daniel Pénac chez Gallimard. Voici Camille Lavabre.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Ça va mieux ?
Alors déjà, puisqu'on en parle, je tiens à m'excuser pour mon absence de la semaine dernière. J'imagine que vous avez dû annuler l'émission et présenter des excuses aux auditeurs. Eh bien, sachez que pas un seul d'entre eux ne m'a écrit pour prendre de mes nouvelles et je tenais à dire que j'avais été profondément touchée par cette immense pudeur. Maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, chères concitoyennes, chers compatriotes, soyez rassurés, tout va bien. J'avais tout simplement une angine. J'en fais souvent. Alors, est-ce parce que je suis d'une nature fragile ou parce que je réponds souvent « ok » quand Lisa me dit « mais non, pas besoin d'une paille, goutte dans mon verre. » Seul un professionnel de santé pourrait répondre à cette question. Alors après 72 heures au fond de mon lit, je me suis décidée à aller voir un médecin, un tout nouveau, rencontré sur une appli, Doctolib, une appli de médecins dispo dans ta région. Je recommande cette appli, clairement c'est mieux que Tinder. Hein. Là t'as des hommes, des vrais, t'as du cardiologue en petit veston cintré quoi. Non mais c'est vrai, je m'en tape moi que tu sois complètement gueudin de paddle et un pote de François Civil. Non, moi je veux savoir si tu as fait des études longues. C'est simple, tu as ton nom plaqué sur un immeuble et un accès facile aux dérivés morphiniques. Bah viens me palper les ganglions quand tu veux en fait. Donc après quelques swipes, je tombe rapidement sur un petit ORL ténébreux. Sur sa fiche, il avait marqué spécialiste des palpitations et du souffle court. Waouh, nickel, ça tombe bien. On match direct et il me propose un rendez-vous le jour même, à 16h35. Enfin un homme réactif qui aime la précision et les goûters. Hyper excitée à l'idée de cette rencontre, je commence à me préparer. Je check la météo, 12 degrés, ok, pas de soucis, je mets mon petit crop top en laine, moi mes red hot feet de rentrée. Je me maquille, je me pipe, je reprends 2-3 mèches au fer à boucler et je débarque dans sa salle d'attente. À 17h, parce que je n'ai pas non plus qui croit que je suis à sa distance. En amont, j'avais fait quelques exercices de diction, histoire de présenter mon meilleur bonjour docteur. Un bonjour docteur droit, limpide, percutant. Il arrive, je me lance. Waouh, bonjour doc, allez-y, entrez. waouh, pas le temps de terminer ma phrase. Je me dis, bon, un petit côté dominant, j'aime bien, pourquoi pas. Je m'exécute. À sa demande, je commence à me déshabiller. Dominant, je vous dis. Et là, on démarre. Il met ses mains sur ma poitrine, je respire fort, la bouche ouverte. Il me dit que j'ai de la fièvre, je lui dis, tu m'étonnes. Il jette rapidement ma gorge et mes oreilles et me dit froidement, ah ouais, vous avez une angine. Je me dis, bon, ok, c'est peut-être pas le meilleur ORL d'Île-de-France, mais c'est pas grave, je le dirai pas forcément à nos enfants, Ernest et Camille Junior. Du coup, je lui dis, d'accord, et vous savez pour combien de temps j'en ai ? Il me dit, bah ça on peut jamais le savoir, vous êtes au courant quand même. Je lui dis, d'accord, et je vais devoir prendre un traitement antibiotique ? Il me dit, bah avant, il faudrait qu'on sache si c'est viral ou bactérien, vous êtes au courant quand même. Je lui dis, d'accord, mais du coup, je saurai quand ? Il me dit, bah pour savoir, il faut faire un test en pharmacie, vous le savez, non ? Donc en fait, le gars commence à m'enchaîner, mais pas du tout comme je le voulais. C'était pas ça le projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque info, slash renseignement, slash besoin d'être assuré, écouter, regarder, aimer, valider, il me répond, bah vous savez bien qu'une nénette quand même, non ? Bah non, je sais pas, non. Bah non, non. Il me parle comme si j'étais interne à l'Institut Pasteur depuis 15 ans. Je finis par lui dire, non, je ne sais pas, docteur. Enfin, vous sauriez clamer des vers en alexandrin comme Amandine et moi, vous ? Bah non, parce qu'en fait, on n'a pas fait les mêmes études, quoi. Il me répond, vous êtes au courant ou ne l'êtes-vous pas de ce qui vous agace et de ce triste état ? Eh voilà, deux vers, 12 pieds. Donc non, en effet, on n'a pas fait les mêmes études. En tout cas, on a pratiqué le même loisir le mercredi après-midi. Eh bah, autant vous dire qu'on ne s'est jamais revu avec le médecin. Depuis, j'ai soigné mon angine, j'ai téléchargé Tinder et je me suis inscrite à un cours de padel.
Merci ! Camille Lavard. Vous êtes bien dans la bande originale, voici l'Escope avec Exotica.
Comme une forêt vierge sous la pluie, où cette île déserte qui s'ennuie, je me sens comme un feu de prairie, ma tête écrasée dans ton lit, comme une tempête qui fait rage en moi, un torrent noir m'emmène dans tes bras, comme un fleuve qui coule sur une âme en Guyana, tropicale est le son de ta voix. Qui fait rage en moi, Exotica. Qu'est-ce que je vais devenir si tu t'en vas?
C'était Exotica de Lescope dans la bande originale, celle de votre matinée sur Inter avec Daniel Penac.
On n'a jamais passé Big Bisou de Carlos, et c'est bien dommage.
Pas encore. Tout à l'heure, Clara Dupont-Mono, journaliste et romancière, sera notre invitée. On cherche souvent à voir à travers leurs écrits qui sont les romanciers, qui sont ceux qui, justement, manipulent ces personnages. Mais la question qu'on lui posera, c'est... qui sommes-nous en fonction de ce que l'on lit? Est-ce que l'on peut analyser des personnes en fonction de ce qu'il y a dans nos bibliothèques? La musique dans la vie de Daniel Penac, on va commencer tout simplement par... Ça, bon.
Petite ambiance.
La Marseillaise en 44. Et on n'est pas en France.
Non, on n'est pas en France. Vous êtes né au Maroc, à Casablanca. Vous avez beaucoup bougé dans votre enfance en Afrique. En Indochine aussi, votre père se déplaçait constamment. Et vous avez une image, celle de votre père, d'une fumée comme ça, un halo de fumée, un fauteuil, une position de bonheur, de plaisir. Ça, c'est la lecture pour vous.
Ah oui, oui, il fumait la pipe en lisant, ouais. Et c'est vrai que c'est associé, d'ailleurs moi aussi je fume la pipe en lisant.
C'est vrai.
Oui, oui, j'étais un enfant très obéissant.
Ouais, comme votre héros, vous ne faites que ce que les adultes veulent faire.
Je fais que ce qu'on dit.
Et vous fauchiez les livres, prétendument, puisque votre père s'amusait à les laisser traîner. Ça me rappelle justement dans le bouquin une histoire de jeune homme qui fauche des livres à un libraire en bois.
Ah oui, Petit Louis chez Gallimard. Ouais. Oh, formidable. C'était un fils de paysan aixois, très pauvre, très très pauvre, et qui fauchait des bouquins dans les librairies, jusqu'au jour où le libraire principal à qui piquait des livres, Ambroise Pichbé, il s'appelait, lui colle une rouste phénoménale, et après, il l'amène en arrière-boutique, il lui colle une rouste phénoménale. Ensuite de quoi, il le ramène dans le magasin, il lui dit, bon écoute, regarde bien, tous ces bouquins, ils sont à toi, tu peux lire. Autant que tu veux. La seule chose que je te demande, c'est de me les remettre en état de lecture, que je puisse les vendre
bon,
après que tu les auras lus. Et si tu m'en piques encore un, je t'étrangle. Et Petit Louis a fait toute sa culture dans cette...
Dans cette librairie.
Dans cette menace.
que le libraire a fini par vendre pour devenir chef des ventes chez Gallimard.
Ouais.
Et un jour... ayant besoin de recruter des représentants, il recrute Petit Louis, son voleur, avec lequel je deviens immédiatement ami. C'était Jérémy Malocène.
Ouais.
Mais Jérémy Malocène dans la vie. Parce que ça marche aussi dans ce sens-là. L'auteur a l'intuition, en décrivant un personnage, que quelqu'un pourrait exister qui ressemblerait à ça. Et le gars arrive, et c'était Petit Louis, qui était représentant. Un représentant extraordinaire, une véritable épidémie. Il vendait des bouquins et il défendait très très bien les bouquins qu'il haïssait. Et les libraires lui en achetaient par charité. Je disais, mais t'es dégueulasse, c'est quand même d'une malhonnêteté. Enfin, c'est d'une malhonnêteté mercantile incroyable. Il me dit, tu n'y connais rien. Le représentant, c'est Cyrano de Bergerac. Le livre, c'est Christian. Le libraire, c'est Roxane. Roxane doit tomber amoureuse de Christian, point barre.
La trilogie.
Et il dit, après, ce qui se passe quand ils sont l'un dans l'autre, tu m'as beaucoup déçu, là. C'est la vie, ça ne te regarde pas. Ça, c'était Petit Louis, oui.
Daniel, cet amour de la littérature, de la lecture, de la langue française étant né au Maroc, quand vous entendez des personnalités politiques dire que l'immigration est un problème, vous avez envie de leur dire quoi ?
Que ce sont des cons, mais c'est tellement... C'est une connerie si vaste et qui repose sur un inconscient si peureux, si douloureux. C'est des gens qui spéculent sur la peur des malheureux. Voilà, c'est l'essentiel est là. Il suffit de raisonner 5 minutes pour s'apercevoir que quantité de choses que nous avons d'extraordinaire en France nous viennent de l'immigration et de toutes les immigrations. Non, là, on joue sur un fantasme, Mais c'est comme ça, notre société s'est construite comme ça, elle s'est construite sur le micro-nationalisme. Mmh. Vous savez, c'est terrible. Oradour-sur-Glane, ville martyre, Vassieu-en-Vercors, village martyr, dont la moitié de la population a été tuée, ont voté 50% Front National l'un et l'autre.
Oui.
Bon, Comment ça se fait? Ça se fait que, simplement, bon, d'abord, la mémoire ne se communique pas par la sensibilité des générations. Quelque chose s'oublie. Et
pourtant, l'ADN a une mémoire.
Mais... Et d'autres malheurs, d'autres frustrations arrivent qui vous font croire à n'importe quoi 20 ans après, 30 ans après. Bon, maintenant, de toute façon, je m'en fous, je suis vers la porte de sortie, mais je le constate et ça me fend le cœur, quoi.
Et vous en parlez dans le livre, il y a une scène comme ça, vous engueulez les jeunes qui s'abstiennent, qui pensent s'abstenir.
Ah oui, sur l'abstention, oui.
Et vous poussez un coup de gueule en expliquant bien à quoi ça va mener. Continuez comme ça et vous verrez où vous irez.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est une scène que j'avais eue avec des jeunes qui s'abstenaient et qui me demandaient de prendre parti. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? J'avais 60 ans de plus qu'eux. Qu'est-ce que j'en pense? Je pensais qu'à leur âge, je sortais de la guerre. Et que la guerre, quand nous l'avions dans le sang, les enfants qui étaient nés, comme moi, à la fin, là, au moment de la Marseillaise, à la fin de la guerre, on l'avait dans le sang. Et je lisais tous les gens qui avaient résisté à la guerre, résisté à l'extrême droite, à l'occupation, etc. Alors, je lisais Étiemble...
Mahmoud Darwish.
Mahmoud Darwish. Oui, parce que... Comment dire? Tous ces gens qui ont essayé de comprendre ce qui se passe ont créé une chaîne d'écrivains conscients, dont le dernier est Mahmoud Darwish, mais en étant passé par Étiemble, David Rousset, Solzhenitsyn, là, comme il faut que je les cite les uns après les autres, j'ai évidemment des trous de vieillard. Et cette mémoire, malheureusement, celle qui a été saisie par les livres des plus conscients, eh bien, elle ne se propage pas, voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être un des problèmes de l'éducation nationale. Et c'est également, quand je vois Trump, par exemple, je me dis, mais attends, le vrai problème des États-Unis, c'est l'éducation nationale. À qui Trump parle-t-il pour pouvoir se permettre comme ça? À quel déficit scolaire effarant révèle-t-il en disant que les étrangers bouffent les animaux domestiques? Qu'est-ce que c'est? À quelle ignorance entretenue ce salaud profite pour raconter n'importe quoi? C'est drame.
Ça se trouve, c'est vrai. Hein. Bah, toi, tu les manges en tout cas.
Daniel Pénac, professeur de français en 79.
Ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar.
La douceur, la poésie, le regard de Chico Buarque, il avait
la valsigne.
Ouais. Il y a plusieurs raisons pour partir d'un pays. Il y a l'amour et puis il y a aussi des gens qui ne reviennent pas. Vous dites que vous partez au Brésil pour suivre votre première femme, et aussi parce que vous détestiez Giscard et Barre, Raymond Barre.
C'est pas que je le détestais, mais tous les jours pairs, nous avions Giscard qui nous... Giscard, les jours pairs, nous conjurait de ne pas céder à la morogite. Chers concitoyens, je vous conjure de ne pas céder à la morogite. Et tous les jours impairs, nous avions Raymond Barre qui nous faisait des cours d'économie.
Et qu'est-ce que vous faisiez au Brésil?
Rien. Mais
c'est bien. C'est la réponse que j'attendais. C'est, je trouve, important. Ça super.
Mais ma femme enseignait. Oh, c'était très joli. Ma première femme enseignait la sociologie. Et quelques mois avant d'aller au Brésil, elle ne parlait pas le portugais. Et elle a appris à parler portugais et elle a enseigné la sociologie. Elle est devenue une prof absolument adorée. Et on a passé là 2 années dans une dictature. Hein. C'était le Figueiredo, hein. C'était un dictateur. Un type qui vous disait à la télé comme ça qu'il avait toujours préféré « Cheiro do cavalo, cheiro do povo ». J'ai toujours préféré l'odeur des chevaux à celle du peuple.
Oh, wow.
Le président, wow. C'est ça.
Ben c'est joli.
Voilà.
Quand ça me plaît.
Donc, ça et donc on est allé voir...
On découvre le plaisir d'être en France.
Au sein d'une dictature, à quoi pouvait ressembler une démocratie culturellement un peu ennuyeuse à ce moment-là. Mais voilà, c'était
ça a duré quoi, 2-3 ans.
C'était très beau et c'était le sertan du nord-est brésilien. J'y serais bien resté, c'était magnifique.
81, peut-être le 10 mai 81, vous décidez de revenir en France.
Alors ce soir à la foire, avec 2-3 lascars, il ira au baston.
Vous écoutiez Renaud et sa baston, mais blague à part, vous revenez parce que 10 mai 81.
Non, revenez parce que le contrat de ma femme était terminé, donc on est revenu. J'ai repris mon poste de prof en France et voilà quoi la vie.
Et vous écrivez pour les enfants à votre retour en France, c'est Cabot Caboche.
Oui.
Que vous publiez à cette époque-là.
Ouais. Oui.
Vous dites que vous vouliez écrire pour les enfants, pour quoi les adultes vous fatiguaient.
Ben oui, en fait, on était en plein structuralisme, c'est vrai que ça me fatiguait un peu. Et moi, je suis naturellement conteur, je ne suis pas décrypteur. L'analyse de la langue pour la langue, ne m'intéressait pas particulièrement. Ce que j'ai toujours aimé, c'est raconter des histoires. Donc, j'ai commencé par les enfants, avec Cabot Caboche et l'œil du loup.
Et vous racontez d'ailleurs dans Mon Assassin, encore une fois, la rencontre avec l'éditeur et les remarques que vous essuyez à ce moment-là. On va boucler la boucle en arrivant en 2023.
Allons enfants.
Encore la Marseillaise. Une autre version.
Jour de gloire.
Et là, Daniel devient immortel.
Consécration, l'Académie française vous attribue le Grand Prix de littérature pour l'ensemble de votre œuvre. Vous l'évoquez dans Mon Assassin.
Ouais.
Vous évoquez aussi la joie que ça vous a procurée.
Mais je suis comme redevenu un enfant qu'on félicite. Mon premier prix, 40 ans plus tôt, était le prix des Galeries Lafayette de la ville du Mans.
Ça aussi, vous le racontez.
Ouais. Et c'était mon tout premier prix, scolarité comprise.
Est-ce que vous étiez quoi, un cancre à l'école?
Oui, j'étais pas très fort, faut bien dire. Ouais.
Vous avez réconcilié des générations entières avec ce récit-là. C'est quand même aussi comme ça que le premier mot qui me vient quand on parle de Daniel Pénac, c'est ça. C'est ce rapport au cancre, l'amour que vous leur portiez quand vous étiez prof, et vous-même, parce que vous avez été vous-même ce cancre, en fait.
Mais c'est-à-dire que je savais ce qu'ils ressentaient. Donc je savais enseigner à des gens qui ressentaient le sentiment d'une nullité irréparable, quoi. C'est à quoi je n'ai jamais cru, bien sûr. Donc de ce point de vue, j'étais un professeur avec double culture. Celle de ce qu'il y avait à leur apprendre, mais aussi la culture de leur être. Je savais qui ils étaient et ce qu'ils ressentaient, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon boulot.
Daniel Pénac signe donc Mon Assassin chez Gallimard. Clara Dupont-Monod nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez vous. Écrivaine, journaliste, éditrice, chroniqueuse à Inter. Dimanche est un roman, c'est tous les dimanches à 8h50. Vous avez reçu en 21 le prix Fémina. Et également le prix Goncourt des lycéens la même année pour votre livre S'adapter, publié chez Stock. Quand on dit tout simplement « dis-moi ce que tu lis, je dirai qui tu es », c'est aussi simple que ça. On arrive à comprendre qui est une personne en regardant sa bibliothèque.
Oui, il y a pas mal d'autoportraits dans une bibliothèque, parce qu'il y a les livres qu'on a lus quand on était ado, il y a les livres qu'un amoureux nous a offerts et puis c'est devenu un ex, donc le livre il est resté mais pas la personne. Il y a ceux que...
J'avais pas vu ça comme ça.
Oui,
heureusement que c'est dans ce sens-là, parce que bon, ouais, c'est ça, ça prend de la place.
C'est dommage
de
jeter un livre.
Tu verras la bibliothèque de Leïla.
Ils sont bien notés.
C'est vrai que souvent ça rime avec un moment quand on nous a offert un livre ou même quand on l'a acheté le livre. Il y a un côté un peu autoportrait. C'est presque la revanche du mot sur l'image en fait. C'est un album photo, une bibliothèque, je trouve.
Alors il y a le choix des livres, ceux que l'on reçoit, ceux que l'on achète, ceux que l'on garde aussi, parce qu'il y a un moment où il faut faire des tri parce que ça prend de la place, comme disait Leïla.
Ça dépend.
Est-ce que la manière de ranger par éditeur, par ordre alphabétique, par genre, ça traduit quelque chose?
Oui, il y a des gens qui ont une vraie une espèce de vocation un peu artistique avec leur bibliothèque. Après, moi j'ai une petite pensée quand même pour tous les bordéliques dont je fais partie, qui n'ont pas d'autre choix que de le classer par ordre alphabétique, parce que sinon vous ne retrouvez pas vos livres, ou alors vous le retrouvez à côté du gel douche dans le frigo.
Non mais c'est important de le retrouver
Au
milieu des bouquins. Pardon de faire un moi-je, mais on va faire un tour de table pour voir comment le rapport de chacun avec les livres. Moi, ils peuvent être empilés, ils peuvent être posés, ils peuvent être en étagère, et puis comme il n'y a pas assez de place, je coince, et puis je dédouble l'étagère, c'est-à-dire qu'il y a une rangée derrière.
Oui, mais est-ce que vous savez exactement non. où est le livre que vous cherchez?
Non, je mets un temps fou à les retrouver après. Voilà. C'est vrai.
Voilà. Mais après, c'est une belle surprise quand
Mais après, j'en découvre d'autres que je ne cherchais pas.
C'est vrai. Et en même temps, si on est un peu pragmatique et qu'on a besoin d'un livre très précis à cet instant T, c'est, ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais.
Moi, je sais vous faites quoi, vous? Par ordre alphabétique?
Ouais, moi je le fais par ordre alphabétique, encore une fois, parce que sinon, Flaubert, je le retrouve à côté du lait UHT dans le frigo. Donc, je suis obligée d'avoir cet ordre alphabétique parce que j'ai un vrai fond de désordre.
Comment vous rangez vos livres, Daniel Plenac, à la maison?
De la même façon. Mais ma bibliothèque, à moi, est une très mauvaise bibliothèque parce que tous les bons livres sont dehors.
Et oui, c'est ça.
Ils ont été prêtés et ils ne sont évidemment pas rendus parce que ça ne se fait pas de rendre.
Mais alors, attendez, Daniel Penac, mon assassin, vous le rangez à Penac, à Daniel, à
mais moi,
assassin, vous le rangez où?
Je ne me range pas.
Oui,
je ne veux pas finir comme un vieillard rangé.
L'ordre alphabétique, c'est l'ordre du titre ou de l'auteur?
De l'auteur.
Ouais,
l'auteur.
Moi, c'est pareil.
De l'auteur. Moi,
c'est
ouais, ouais.
Okay. Donc c'est l'auteur et c'est le nom de famille, c'est pas le prénom, on est d'accord.
Mais
ouais,
okay.
Exactement.
Les bons livres étant dehors, je ne cherche plus, je ne la consulte pas, ma bibliothèque. Tout ce qui est bon est à l'extérieur.
Et est-ce que ça vous encombre, les livres? Est-ce qu'à un moment vous les regardez en vous disant...
Non, oui, enfin oui, ça m'encombre. Non, c'est tellement beau, une bibliothèque.
Ouais. Moi, c'est comme une famille, en fait, parce que le livre, il est plus loyal qu'un être humain, il grandit avec vous, il est plus beau qu'un être humain aussi. Enfin,
c'est Clara, parole... en ce moment, Clara.
Il y a des comptes à régler, là, c'est vrai. Je personnel. Être devant une bibliothèque, c'est être devant une bande de copains, en fait. C'est une bande d'amis, quoi. Qui
c'est bien aussi de les renifler quand ils sont neufs.
Ah oui,
on parle du livre.
On parle du livre.
Oui, on parle du livre. Mais, et puis après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ne touchent pas les livres et il y a ceux qui les cornes, ouais. qui les soulignent, qui les stabilisent au boss, qui mettent des post-it.
Qui les achètent d'occasion aussi.
Exactement, ce que j'adore moi dans les librairies bouffe, d'occasion, c'est d'acheter un livre avec déjà les notes de la personne dans la marge, parce qu'on voit où elle a tiqué, ce que ça lui a inspiré. C'est un échange, un livre, c'est un partage.
Il y a aussi un comportement du bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire d'avoir des livres qu'on n'a jamais lus, mais qu'il faut avoir dans une bibliothèque, laisser en apparence et faire genre j'ai l'intégrale de machin ou de
trucs. C'est enlever le blister hein, quand même.
Ouais. Généralement, ça se voit, ça, très vite.
Oui, et puis surtout, si vous avez envie de mettre 50 nuances de grès à côté de Balzac, c'est que ça vous correspond, c'est vous. Donc, si vous commencez à orner votre bibliothèque pour un apparat social, enfin, moi, je trouve, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on va pas montrer notre vrai visage aux gens. Et dans ces cas-là, si on est obligé de s'inventer une sorte de façade devant des personnes, est-ce qu'ils sont dignes de nous aimer?
Ouf!
Oula! Non, ça c'est fort quand même.
Ouais, c'est...
Non, c'est un peu fort.
Mais disons que.
Non, disons, je trouve que quand quelqu'un regarde votre bibliothèque, c'est exactement comme quand vous laissez quelqu'un vous regarder dormir. C'est pareil. Il y a une espèce de de mise à nu. Mais puis de mise à nu. Parce que c'est ce qui vous a parlé à un moment de votre vie, c'est ce qui vous remue, c'est ce que vous n'avez pas supporté.
C'est ce qui vous trahit aussi.
C'est ce qui est exactement.
Tu parles de ton Mein Kampf, Daniel.
Est-ce que vous mettez tous les livres dans la même catégorie, que ce soit des romans, que ce soit des essais ou des albums photos ou des livres de déco, que sais-je,
enfin, des
modes d'emploi. Est-ce que vous appelez ça un livre aussi?
Oui, également.
Les beaux livres, comme on dit, qu'on pose sur une table basse.
Oui, et également les livres de recettes, parce qu'il y a des livres recettes de cuisine qui sont tout à fait dignes d'être des romans, mais aussi parce que vous les aimez, qu'à un moment précis de votre vie. C'est un livre qui vous a accompagné tout le temps entre deux déménagements, parce que vous avez fait la cuisine pour la première fois, à votre amoureux, à votre enfant, à votre... Vous voyez, à chaque fois, il y a une histoire, en fait.
Il y a les recettes de Marguerite Duras. Il y a un livre de recettes de Marguerite Duras aussi. On peut associer littérature et cuisine.
C'est vrai que c'est dégueulasse.
Ouais, elle est super.
Elle ne savait pas cuisiner. Ouais. Elle écrivait bien. Mais
la table,
c'est nul.
C'était dur. Elle touillait à la plume. Donc.
Clara Dupont-Monod, donc écrivaine, journaliste, éditrice et chroniqueuse. Vous avez le temps d'écrire un nouveau roman?
Alors là, non, il m'arrive une petite malédiction qui est que, comme le précédent roman a eu du succès, je ne cesse de le réécrire dans ma tête, donc je pars du principe.
C'est fou ça.
Ouais, c'est très bizarre. Donc ça me réveille la nuit. C'est un texte jaloux qui ne laisse pas la place et je suis occupée à le réécrire dans ma tête tout le temps. Ce faisant, le réécrivant, je pars du principe que ce que j'ai écrit était donc très améliorable. Donc vous êtes dans une frustration. frustration tout le temps et je passe mon temps à les réécrire. Je n'arrive pas à m'en défaire. Donc il va bien falloir que je le fasse quand même.
En faisant un volume 2. En faisant
ah
quoi
voilà, exactement, le retour
version
de la corrigée
de
la version corrigée, ouais, c'est ça. Merci Cara d'être venue à ce micro. On vous retrouve à 8h50 ce dimanche, comme tous les dimanches sur Inter. Voici Julie Conti.
Allez Conti.
Bonjour tout le monde. Alors les garçons, comme ça on aime bien avoir les bourses bien pleines. Hein ? Oui, oui, vous l'aurez compris, ce matin j'ai décidé de vous parler d'économie. Selon une étude réalisée par l'Institut National d'Études Démographiques, dans un couple hétérosexuel, quand la femme contribue plus que l'homme au revenu commun, le risque de séparation est plus élevé. Hein, en fait, si je suis payée au lance-pierre à France Inter, c'est juste pour préserver ma vie de couple. Merci la compta. En 2024, on pourrait penser que les hommes seraient ravis que leur conjointe ait de super boulot.
Non mais c'est pas ça le problème, on veut bien que vous travailler plus, on veut juste pas que vous gagniez plus.
Mais en réalité, l'étude ne précise pas si c'est l'homme ou la femme qui est à l'origine de la séparation. Les chercheurs avancent quand même deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que les hommes, vous avez un petit égo fragile. Bon, alors, je paraphrase un peu. Je crois que les termes exacts utilisés dans l'étude, c'était « vous êtes des petites pougnettes insécures qui supportent pas de gagner moins. Oh, mes pauvres mimines !» Et deuxième hypothèse, c'est que si la femme a assez de thunes, elle se contentera pas d'un gros con qui la traite comme une assistante personnelle et elle préférera en toute logique se casser. Et ça, c'est le signe pour les gars de commencer à vraiment faire des efforts. Parce qu'entre l'indépendance financière et le womanizer, si on reste avec vous, c'est vraiment parce qu'on vous aime bien. Hein. Non mais womanizer, c'est vraiment le grand remplacement de la teub. Hein. Il paraît même que CNews, ils sont en train de faire chercher un lien entre sextoy et islam. Allez Pascal, on y croit. Quoi qu'il en soit, c'est dingue comme l'argent reste un tabou dans le couple. Chez moi, en revanche, la transparence, elle est totale. C'est exactement tout l'argent que touche mon mec et réciproquement, lui, c'est tout l'argent que je ne touche pas. Hein. Et parler ouvertement d'argent en couple, c'est comme péter l'un devant l'autre. Je trouve que c'est le signe d'un couple sain, hein, sain, mais qui doit quand même manger un petit peu plus de fibres, on est d'accord. Et franchement, être au clair sur l'argent dans le couple, c'est une vraie façon de lutter contre les inégalités financières entre hommes et femmes. Bah oui, faire 50-50, c'est souvent une grosse arnaque, parce que dans trois quarts des couples hétéros, la femme gagne moins que l'homme, et dans un couple équilibré, c'est pas comme ça qu'on aime bien se faire baiser. Et à ce propos, je reviens de loin, parce que mon film préféré, moi, quand j'étais gosse, c'était Pretty Woman. Mon rêve à 7 ans, c'était de faire le trottoir en attendant qu'un mec de 20 ans de plus que moi me sorte de là. Hein, bah, c'était bien les années 90, c'était le bon temps. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi il n'y a jamais eu de Pretty Woman 2 ? Alors oui, parce que franchement, la suite, ça aurait été une énorme bourse, comme 100% des suites, on est d'accord, hein, j'ai hâte de voir deux petits trucs en plus. Non mais... c'est surtout parce que Richard Gere a su que Julia Roberts allait être mieux payée que lui, et du coup, il a refusé de jouer dans la suite. Non, non, c'est pas vrai. J'ai inventé ça, c'est une connerie invérifiable. Mais bon, hein, quoi, on est dans les médias, alors il faudrait dire que la vérité. Non mais on va où, là ? C'est n'importe quoi.
Elle a raison.
Et je disais que le fric, ça reste un tabou. Une pote avait même halluciné que je sois pas gênée de parler d'argent avec mon mec. Gênée, gênée, sérieusement, je m'assois régulièrement sur son visage, alors la gêne. Et c'est même, cette même amie, elle m'avait sorti, tu sais, ce qu'on dit, les couples et l'argent. Quand l'argent entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Bon, pour être honnête, moi je me fie jamais aux dictons et aux expressions parce que dans 80% du temps, je les comprends pas ou je les utilise mal. Genre, rendre à l'appareil, pour moi, vraiment longtemps, j'ai pensé que c'était genre rendre à l'appareil à raclette, tu vois. Et je crois que j'ai un problème d'audition parce que j'ai appris très très tard que Simon et Garfunkel, c'était pas des frères dont le nom de famille était Funkel et les prénoms Simon et Edgar. Gros galère pour trouver Mrs. Robinson sur Spotify. De quoi je parlais ? La thune et les couples. En fait, on a l'impression que dans un couple, parler d'argent, ça casse le romantisme. Parce que quand on est tout amoureux, c'est facile. Le mec, il est là. Non, mais tout ce qui est à moi est à toi, ma chérie. Surtout mes slips sales. Ouais, mes slips sales, ils sont bien à toi. Tu peux les laver, ma grosse. Non, mais dans la vie, c'est pas un conte de fées. Hein. Je suis pas Blanche-Neige. Il n'y a pas un mec qui va venir m'embrasser sans consentement pendant mon sommeil et avec qui je vais paisiblement partager un crédit sur 30 ans pour me payer un pavillon en banlieue. Dans la vraie vie, il y a une chance sur trois pour que je me retrouve seule à élever les 7 nains avec une pension alimentaire ridicule qui couvrira pas les frais médicaux d'Achou mais l'orthophoniste de Simplet. Bref, mes amis, tout ça pour dire que quand on aime, on compte tout. Enfin, je crois, j'ai jamais bien compris les proverbes ni les compteurs.
Mon assassin, on continue d'en parler jusqu'à midi et demi. D'abord, Alexandre Cominec, de quoi vas-tu parler dans la dernière demi-heure ?
Oh, ça sera pas moi, une invitée spéciale.
J'ai peur comme tous les vendredis. On revient après les infos. La bande originale se poursuit jusqu'à midi et demi. Le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin et toute la bande.
Et c'est reparti avec Daniel Pennac.
Oh là là, si ça se trouve là, vous savez quoi ? Je suis aux Antilles en train de bronzer et de zouker comme un fou.
Donc dans Mon Assassin, Dany Pénac, vous, chez Gallimard, à la fois vous expliquez la naissance de vos personnages, ou en tout cas la manière dont vous faites durer la vie de vos amis qui vous ont quitté trop tôt, de tout ce qui vous a plu chez eux, de leurs traits de caractère, de leurs pensées, par moments de leurs défauts, en tout cas il y a quelques caricatures, mais attachantes évidemment, émouvantes, et ça devient l'un des traits des personnages. Vous faites même aimer des amis entre eux via des personnages. Mais moi, je voudrais revenir à cet enfant. Il a décidé de quelque chose et il veut mener à bien.
Oui, il veut devenir le plus grand maître chanteur du monde, en fait. Et il s'entraîne. Pendant la durée de ce roman, on assiste à l'élaboration de son premier coup. Le coup qui lui permettra de devenir le vieux maître chanteur qu'on trouve dans le précédent Malocène, d'ailleurs, qui est Terminus Malocène.
Il est tout doux, mais il se fait respecter.
Il n'est pas d'une brutalité immédiate.
Mais il sait se faire respecter, à sa manière.
Mais ce n'est pas, à proprement parler, un gentil.
Voilà. Mais pourtant, vous l'aimez bien ?
Il m'intéresse parce qu'il est un peu... Donc, lui n'est inspiré par aucun de mes amis. Donc, il faut bien qu'il sorte de moi, ouais. Et... Ça m'inquiète, que j'ai pu imaginer une pareille fripouille, oui, un salopard pareil,
ça vous
un
dit
assassin
quoi,
systémique. Et d'où ça sort en moi, c'est toute la question que pose ce roman.
Et c'est pour ça que dans le titre, vous mettez ce...
Mon assassin.
C'est le mien.
Oui, il doit bien venir de moi, oui. Certaines colères d'enfance, des vengeances inassouvies. Exemple, j'avais un instinct, il faisait moins 14, moins 15 degrés chez nous. Il faisait allumer le poêle de l'école par le meilleur de ses élèves. Et ensuite, il nous rangeait par ordre de mérite décroissant,
ça, c'est
de plus
horrible.
En plus loin.
C'est horrible, mais j'ai trouvé ça très très drôle.
Le moins 17 degrés.
Voilà. Et plus t'es loin du réchaud.
En plus de ça, il nous rendait nos dictées et il disait, en parlant de moi, il disait moins 17, Pénacchioni, comme dehors, vous êtes notre meilleur thermomètre. Et alors ça tu sais, ça.
Mais regardez, mais ça forge un caractère.
Non, mais le pire, c'est que vous donniez de l'argent pour cotiser au cadeau.
Et en plus de ça, moi, je voulais en être
le plus beau cadeau. Chez Gallimard, Mon Assassin, signé Daniel Pénac, c'est le prochain livre que Daniel Pénac va lire, et c'est ça qui est fort. Voici Alexandre. Alors. Alexandre Pénac devait être là, Leïla, et vous devez un invité.
Je reçois un invité après. L'altercation survenue entre le rappeur français Gazo et l'américain Offset après le tournage de leur clip. Je voulais revenir sur les clashs dans le milieu du rap, car ils sont nombreux. Pour en parler, nous recevons un rappeur un peu particulier aujourd'hui. Il nous vient de Genève, de Cologny précisément. C'est le rappeur Millionnaire. Bonjour.
Bonjour. Merci France Inter. Enfin, ça fait bizarre. Pardon, je vous le dis, ça fait bizarre vraiment d'être sur France Inter parce que j'écoute jamais France Inter. Mais merci pour l'invitation, Madame Salamé. Vraiment. C'est... Non, mais c'est vrai que j'écoute pas Inter. Enfin, t'écoutes pas une radio de gauche quand tu roules en classe G. Hein. C'est simple. Je capte même pas les ondes. Donc vraiment. Mais d'ailleurs, ça doit vous faire bizarre à vous hein, d'accueillir un artiste comme moi, parce que d'habitude, vos artistes ici, c'est quoi ? C'est Pop, Zaout, Sagazan, Julien Doré. C'est peut-être pour ça que ça sent la soupe dans le studio.
Ben, on est ouvert à tout le monde en fait. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui Millionnaire.
Ah ouais, bah c'est super. D'ailleurs, je tiens à préciser que Millionnaire, c'est un blaze. Hein. C'est pour faire plus proche du peuple. En vrai, je suis milliardaire.
Ça veut dire que vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Ah, je dirais plus que je suis sorti d'une schneck de platine. Voilà, c'est... Non, vraiment, Madame Salamé, j'ai grandi à Cologny, à Genève, en Suisse. C'est l'équivalent de Neuilly. Si Neuilly, c'était pas devenu une sorte de Sevran West Coast, quoi. C'est... Non, pour vous dire, hein, Cologny, tu fais tomber 1,50 m, on te verbalise pour abandon de déchets sur la voie publique. Mais à Cologny, il n'y a pas de HLM, hein. Vraiment, il n'y a pas de terrain vague. Chez nous, un terrain vague, on appelle ça une parcelle. Voilà, hein. Et c'est 30 000 le mètre carré. Ouais, 30 000, ouais, là, il y a de l'auditeur à Clermont-Ferrand qui doit saigner de l'oreille. Hein. Parce que 30 000 à Clermont-Ferrand, bah, ils acceptent pas. C'est trop. Bon, pour 30 000, tu rachètes la ville. Clermont-Ferrand, franchement, c'est dur. Hein. Oh là là. Moi, j'y ferais pas dormir mes Philippins.
Pardon ?
Mes Philippins, c'est des gens. C'est super. Bah, tu les mets dans le sous-sol. Non, mais c'est vrai, tu les mets dans le sous-sol et dès qu'ils sortent, hop, ils font le ménage. Vraiment, c'est... Alors, je rassure les gauchistes qui nous écoutent. Je les traite bien. D'ailleurs, j'ai un titre qui s'appelle Mes Philippins sont sapés Philippe Plein.
C'est toujours étonnant de faire du rap quand on vient d'une famille très fortunée. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le rap ?
En jet. J'ai un jet qui s'appelle Millionaire. Millionaire. Hein, comme je m'appelle millionnaire, j'ai fait comme Egypt Air, hein, ou Ryan Air, voilà, que j'appellerais prolétaire, hein, si j'étais.
Oui, ben, revenons au clash dans le rap.
Ouais.
Revenons à ça.
Ouais, Fred, deux bouteilles, s'il te plaît. Pardon, je suis encore la veille, alors je suis dans le futur. Mais le clash dans le rap, franchement, Madame Salamé, moi je m'en bats les couilles. Hein. Je vous le dis, même Booba, vraiment, je m'en tape. De toute façon, il a pas intérêt à faire le malin. Il est locataire dans mon immeuble Ngami. Hein, donc, s'il clash, hop, j'augmente les charges. Boum, tu vas faire quoi ? Y a quoi, gros ? Y a quoi ? Ah, non, mais même Rof, une fois il a trop parlé, j'ai augmenté. Hop, fin de carrière. Voilà. En plus, le pauvre, il logeait dans le 7-7, lui.
Vous possédez de l'immobilier dans le 7-7 ?
Ouais, je possède le 77. Vraiment, le 77, le 43 et le 102.
Mais ça existe pas ?
Pas encore, mais ça arrive bientôt, la famille. Je suis en fit avec Elon Musk, là. Ouais, pour faire un département français sans français. Quoi que tu me diras, il y a déjà la Seine-Saint-Denis. Mais non, mais écoute-moi, Nagui. Moi, je te parle d'une France sans, voilà, une vraie France sans française, sans gilets jaunes, avec des chômeurs qui cherchent vraiment du travail, avec un périph' sans dos d'âne.
Et sans fonctionnaire, alors.
C'est quoi ça? Ça se mange? Ah, tu dis les gens. Là, oh, bah, putain, mais ça, c'est du génie, ça, les. Hey, tu sais que je t'adore, toi. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un peu le côté street de cette émission.
Ah, vous dites ça parce que je suis arabe.
Ouais.
Ben, c'est raciste.
Ouais. Non, mais j'ai plein de copains arabes. Hein. Attention, hein, j'ai plein de copains qui viennent d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar. Enfin, c'est comme la triplette Algérie-Maroc-Tunisie, hein, mais avec option sport intérieur cuir de pute. Non, mais ça va, quoi. C'est des arabes avec de l'oseille. C'est... Mais tu sais pourquoi on les appelle pays du Golfe? Parce qu'ils peuvent y jouer. Hein, le Maghreb, Leïla, c'est pas les pays du polo. À ce que je sache.
Ouais, bon, vous faites le malin, mais j'ai jamais entendu un seul de vos sons, moi.
Ouais, c'est parce que je suis boycotté, Leïla. Ah, tu crois que c'est facile, hein? Tu crois que c'est facile d'être un homme blanc? Non, mais le seul homme blanc que j'ai croisé ici, c'était une femme avant, quoi. Donc, on en parlait, Christine and the Queen. Raïm. Voilà, Raïm. Putain, alors lui, il a opté double boycott. Homme blanc, prénom d'arabe.
Et qu'est-ce que vous revendiquez dans vos chansons?
Rien. C'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne me verras jamais chanter pour les migrants ou les LGBT. Hein. Ah, les seuls migrants que je connais, moi, ils sont diplomates. Voilà. Ouais, mais je suis pas homophobe, hein, j'ai un designer d'Eb qui m'a fait l'intérieur. Ouais, je parle de mon pied à terre à Saint-Germain, évidemment. Hein.
Est-ce que vous avez une actu?
Non. Enfin, oui, bien sûr, je rigole. Hein, ça arrive fort, la famille. Hein, comme l'ISF. Mon prochain album. Ouais, j'ai un prochain album qui s'appelle Ursaf. Ça va nickel game. Ouais, j'ai plusieurs titres de fou là-dessus. Il y a Saint-Trope avec Jules.
Jules?
Non, Jules, un pote à moi. J'ai aussi un morceau émotion qui s'appelle Fils à Pape. Ouais. Non, mais là, c'est sérieux. Là, c'est très sérieux. Là, c'est en fait, je rappe pour mon père, ouais, qui a disparu aux yeux du fisc. Et il y a aussi les titres Il Caïman, Héritage et Raclette Garrido. Hommage franco-suisse.
Est-ce qu'on peut avoir un extrait?
Vas-y, on fait un petit freestyle si t'as une instru, balance. 1, France Inter, oh yeah, freestyle pour les cyclistes, pour les gauchistes, libérez Clément. Millionnaires sur vos millions de mers, j'ai des millions sur des comptes à des milliers de kilomètres. J'ai pas besoin de percer, dans l'argent j'ai bercé. Et si je veux faire un concert, bah j'achète Bercy. C'est le rappeur de droite, c'est le rappeur des milliardaires. Je dédicace aux frérots Bolloré et Lagardère. J'ai jamais connu la rue, ni les survêtes, ni les baggy. À 12 ans je traînais en boîte avec Jean Rocard, avec Nagui. J'aime les RIB et les SUV, les Iban, les BIC, les Swift et les HSBC. Bah les coups de l'écologie, j'ai un gros jet qui tue. J'ai toujours une paille dans le nez, on me surnomme la tortue. Dans ma Merco, j'écoute Sarko avec ma Michto. Et quand t'aimes saoule trop, je fais du Pascal Pro. À 200 sur la voie de gauche, pourtant je roule à droite. J'ai toujours les doigts qui puent là et les filles, je lui mets les wads. Millionnaire sur vos millions de mers, j'ai des millions sur des comptes à des milliers de kilomètres. Allez, à plus les gauchos.
On se retrouve dans la bande originale juste après ça.
I don't know. you're strange, you're so perfect. You're strange, you're so perfect.
C'était Perfect Stranger, j'espère bien le dire, FKA Twigs dans la bande originale. Daniel Pénac signe Mon Assassin, le nouveau roman chez Gallimard, d'autres événements culturels.
Absolument. On cherche un philosophe dont on célèbre cette année les 300 ans de la naissance. Un philosophe un peu curieux qui est mort à 80 ans sans jamais être malade. Je vous donne d'autres indices, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire. Il est prussien, il est né en 1724 à Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, pardon, on est en Russie. Il a écrit Critique de la raison pure.
C'est Kant ?
Absolument, c'est Emmanuel Kant. Absolument. Et derrière le philosophe, il y a un homme étrange.
Il a fait une bière aussi.
Ok. Il y a un homme étrange, comme nous le raconte Roger Paul Droit dans Les Échos. Il se levait tous les matins à 5 heures. Il se lavait les pieds avec de l'eau glacée. Il ne prenait qu'un repas par jour, à midi. Et à ce repas, il invitait toujours des hommes, exclusivement, pour parler de tout, sauf de philosophie. Il détestait le bruit. Il a menacé de tuer beaucoup de fois le coq du voisin, notamment. Et il marchait seul, toujours seul, parce qu'il pensait qu'il fallait respirer uniquement par le nez, donc impossible de parler, et il ne pouvait donc pas être accompagné. Un philosophe un peu curieux, c'est toujours intéressant de se dire, tiens, on retient dans l'histoire ce bonhomme pour ses écrits, mais en termes de santé, obsession sur la santé, obsession sur la folie et sur un sujet qui, voilà, qui était très au cœur de sa recherche. Est-ce que vous avez des petites obsessions dans votre vie, Daniel Pénac ? Des petites marottes, des comme ça, des grosses routines.
Est-ce que vous lavez les pieds à l'eau froide?
Est-ce que vous respirez déjà?
Le tir à l'arc?
Ah oui, le tir à l'arc. Ah. Oui, c'est une petite...
c'est, alors, c'est quoi?
Oui. Mais c'est rien, c'est que je me donne
rendez-vous. Vous visez qui?
Je me donne rendez-vous avec moi-même dans ma grange. J'habite une ferme dans le Vercors, où je suis tout seul. Et je colle des flèches dans une cible à 22 pas de moi. Quand elles sont toutes dans le jaune, je m'en vais.
C'est votre envie,
c'est bête,
de, c'est votre envie de tuer quelqu'un.
Je fais ça, voilà. Et je le fais une fois par jour. Et ça prend...
Une fois par jour.
Je peux coller mes 5 flèches dans le jaune en 6 minutes ou 1h20. Ah. Étant entendu que chaque flèche qui touche le jaune, je la laisse.
Oui, bien sûr.
J'en ai 5. Pour que les 5 soient dans le jaune, ça prend soit 5 minutes, soit...
On a compris,
c'est une question de forme.
Et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte, vos pensées?
Je suis peinard pendant le temps que ça dure.
Parce qu'il y a tous les gens qui sont derrière qui flippent, en fait, parce qu'il y a plein de
personnes. Personne ne me voit.
Les murs sont surtout que le jaune, c'est Monsieur Lee. C'est ça que je trouve bizarre.
Pourquoi vous êtes peinard? Parce que vous pourriez être peinard le reste du temps.
C'est un côté zen, c'est très zen, c'est un exercice.
C'est quoi, c'est la concentration?
Oui. Le moment où la flèche, par exemple, va atteindre le sang, là, entre les deux yeux, il y a un petit moment incroyable où vous êtes à la fois la flèche, la cible, le parcours, tout. Et vous savez que cette fois-ci, vous êtes dans ça.
Ça peut déterminer l'humeur du moment ?
Quand je passe 1h20, je suis assez furax quand même, parce que à la fin, ça devient la méthode des essais et des erreurs. Je tire n'importe comment.
Terminé à la main, au poignard.
Aïe, dans ce foutu jaune. Voilà. Mais autrement.
Et si ça va vite, ça va être une bonne journée.
Ah oui. C'est effectivement très apaisant. Ouais.
Autre question, on va parler de Pénélope. Pénélope, c'est un chat surnommé Penny dans le 20e arrondissement à Paris qui fait l'objet d'un article dans Le Parisien. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on parle de ce chat ?
Il a sauvé une vie.
Non.
A inspiré une histoire.
C'est plus classique non plus.
Pénélope.
Il a disparu ? Non, il n'a pas disparu, au contraire.
Il est revenu après avoir perdu ses maîtres pendant 800 000 km.
Non plus. Ce n'est pas une histoire si extraordinaire.
Au Père Lachaise, comme disait Daniel, les chats du Père Lachaise.
Il y a peut-être un petit côté comme ça.
Il reste sur la tombe de son...
Non, pas sur la tombe.
Il fait de la couture.
Non, il ne fait pas de la couture. Je vais vous la donner, la réponse. En fait, il fait le bonheur du quartier, ce chat, parce que c'est un chat de quartier. En gros, sa propriétaire s'est rendu compte qu'il était malheureux à rester toujours dans l'appartement. Et donc, elle le laisse partir. Elle lui a mis un collier GPS. Ouais. Non, mais attends, écoute l'histoire. Elle a un collier GPS, cette chatte, Penny. Et elle se promène absolument partout. Elle a un compte Instagram. Et donc, les gens qui la recueillent chez eux peuvent la nourrir, peuvent la laisser dormir là. Ils prennent des photos et ils postent sur le compte. C'est un chat partagé, un chat de quartier. Tout le monde dans le quartier se demande où est ce chat Penny. Est-ce qu'il va venir le voir un petit peu ou pas? Et donc, ce chat tourne partout. Donc, absolument
il apparaît,
partout.
Il disparaît.
Ça ne peut se passer que dans le 20e arrondissement.
Voilà, le quartier de Saint-Fargeau, absolument, dans le quartier Saint-Fargeau. Et en fait, tous les gens, le chat commence à être connu dans le quartier. Il va au café, au bar PMU. Et là, les propriétaires aussi sont très, très attachés à ce chat. Tout le monde lui donne des petits surnoms, tout le monde la nourrit. Des gens ont essayé de kidnapper le chat, parce que le chat est tellement mignon et que tout le monde se dit, tiens, si on pouvait le récupérer. Et ce chat facilite les liens entre les gens. Les gens se rencontrent grâce au chat et ont appris à se connaître, ce qui n'était pas envisageable avant. Donc finalement, à travers ce petit chat, il y a des liens qui se créent. Daniel, je sais que vous aimez beaucoup les chats.
Les chats et les chiens, oui. Ouais. Oui.
Merci, c'est tout de suite.
Vous parlez d'un chat.
Oui, non, mais c'est magnifique, un chat collectif. Ouais,
un chat collectif, c'est un truc un peu...
Le fait est qu'ils ont tendance à se barrer assez naturellement de là où on prétend les posséder.
Et, ouais, c'est ça.
Et ils vont faire des tours et sont acceptés facilement.
C'est un personnage de vos histoires, le chat.
Le chat est liant.
Il y a un petit côté aussi d'adoption. Vous parlez d'adoption, d'une formidable adoption dans votre livre. Mmh. Ce chat est un peu adopté par tout un quartier, par plein de personnes.
Ah oui.
L'histoire de l'adoption, elle est belle.
Ah oui, l'adoption, c'est ma femme et moi qui avons été adoptés par quantité d'enfants adoptants, qui sont en général adultes quand ils nous adoptent, ce qui nous évite l'inconvénient de les éduquer. Et oui, c'est vrai, nous sommes comme ce chat, adoptés par un certain nombre de gosses. Ouais.
Le roman s'appelle Mon Assassin, signé Daniel Penac. Vous continuez votre collaboration avec Florence Sestac ?
Oui, bien sûr. Oui. On vient de finir un petit album qui s'intitule Les mots s'amusent, où Florence fait des dessins autour de petit texte où les mots s'amusent.
Est-ce que Mon Assassin peut devenir une fiction, une...
L'histoire du petit garçon, oui. Oui. Le jeune maître chanteur, apprenti maître chanteur.
C'est un
personnage. Ouais. Ça peut être un personnage de film.
Carrément. Ouais. C'est chez Gallimard, Mon Assassin, signé Daniel Penac. Daniel Morin.
Oui.
Des excuses.
Absolument. Déjà, désolé pour tous nos auditeurs corses qui m'ont appelé pour me dire qu'ils n'étaient absolument pas choqués par l'histoire de Matteo Falcone, à base de corruption d'enfants qui finit en assassinat. Des auditeurs qui, Daniel, m'ont quand même demandé votre adresse, votre digicode, et je les ai mis sur les réseaux sociaux, bien évidemment.
Merci, Daniel Morin. Daniel Penac, avant de se quitter, comment vous travaillez? Avec une plume, avec un stylo, avec un ordinateur?
Non, avec un ordinateur.
Et vous corrigez beaucoup ?
Sans arrêt. Oui, enfin, oui, sans arrêt.
Non, mais je repense à...
C'est-à-dire que j'écris en boucle un paragraphe et réécrit, et je passe au paragraphe suivant.
Ce qu'a raconté Clara Dupont-Mono, vous l'avez perçu par moment de se dire, je réécris, je revisite mon roman et j'aurais pu le changer ?
Ah oui.
Tout est perfectible,
oui,
cela dit.
Le, oui, celui-ci, justement, mon assassin, m'est resté très longtemps dans la tête après le point final. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai oublié un chapitre. Un ami m'a fait remarquer, il me dit, tiens, tu n'as pas parlé de ça, qui est très important dans La Fabrique des Assassins. Et c'est vrai, j'ai oublié un chapitre concernant mon adolescence, oui. Qui était que, en gros, j'étais pensionnaire, on voulait me bizuter, j'étais absolument contre le bizutage, donc je me bagarrais sans arrêt. Et puis, un jour, à 19 ans, j'ai, au cours d'une bagarre particulièrement féroce, j'ai passé la nuit suivante dans la peau d'un assassin potentiel. Et je me suis dit, j'arrête. Et je n'ai plus jamais levé la main sur qui que ce soit, mais d'une seconde sur l'autre, comme ça s'est passé. Alors que c'était mon quotidien. Ça, d'ailleurs, ne plus coller de coups de boule, ça a compliqué ma vie, il faut bien dire.
Vous le rajoutez dans la réédition de Mon Assassin.
On va rajouter, c'est
pour le millionième exemplaire.
Un scoop 2, pour l'émission.
Merci, joli scoop. Merci pour le cadeau. Bonne journée, Daniel, bravo. Et merci Mon Assassin chez Gallimard. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui.
Ah non, pas de nouvelles comme ça.
Si, c'est fini même pour la semaine. Mais si.
Mais on revient ou pas?
Oui,
évidemment.
Mais heureusement, on se retrouve lundi. Avec la bande au grand complet, eh oui.
Et vous savez quoi pour 2025? Ma résolution est de ne pas manger un seul, mais pas un seul, légume. Et ça, je vais m'y tenir.
Tu faisais pas ça déjà l'année dernière?
Tais-toi.
Bonne journée sur Inter et à lundi.